ce mardi est jour de fête nationale en République tchèque. Il y a 31 ans, le 17 novembre 1989, se tenait la première des manifestations qui allait aboutir à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. La démocratie qui a alors été retrouvée après 40 années de dictature a bien évolué depuis. Aujourd'hui, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'IEP de Strasbourg, auteur d'une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Rupnik intitulée « De la mobilisation citoyenne à la démocratie de parti, participation et délégation politique dans la nouvelle démocratie tchèque », Magdalena Hadžiský s'est intéressée de près aux dynamiques de ces grands changements des premières années post-révolutionnaires. On l'écoute au micro de Guillaume Narguet.
Magdalena Hadžiský, bonjour.
Bonjour.
Première question un peu obligatoire pour un 17 novembre. Quel souvenir évoque pour vous cette révolution de velours en Tchécoslovaquie et aussi les années qui ont suivi celle-ci?
Ce sont des souvenirs, comme chez beaucoup de gens de ma génération, finalement assez personnels. C'est-à-dire comme beaucoup de grands événements historiques, lorsqu'on en a été contemporain, ça peut avoir un effet sur sa vie, sur son existence personnelle. Et ça a été le cas pour ma part, puisque, alors c'est pas la révolution de velours uniquement, bien sûr, hein, c'est toute cette année 89, hein, miraculeuse, comme on a pu dire à l'époque, avec la concomitance des transformations dans l'ensemble de l'Europe centrale orientale, et aussi, ne l'oublions pas, en Union soviétique. Hein, et personnellement, j'étais à une période de ma vie, pendant la période des choix professionnels, hein, donc j'étais en tout début de mes études supérieures, et eh bien cette transformation de 1989, ces révolutions, m'ont amené à décider finalement de m'orienter vers les sciences sociales, la science politique en particulier, et par la suite à choisir de travailler pour ma thèse de doctorat sur l'Europe centrale orientale. Alors, cette fois, plus précisément, sur la Tchécoslovaquie, effectivement, et apprendre le tchèque et partir en République tchèque pour faire mon terrain.
Alors justement, vous vous êtes intéressé à la transformation de la société tchécoslovaque et à son passage à la démocratie et à une économie de marché dans les premières années qui ont suivi la chute du régime communiste, donc au début des années 1990. Ce travail remonte à une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous semblait, on va dire, particulièrement marquant à l'époque ?
La première chose, c'était le fait que la Tchécoslovaquie, contrairement aux autres pays de la zone, avait connu une période relativement longue, on va dire, de démocratie parlementaire dans l'entre-deux-guerres. Donc c'était un cas qui me paraissait particulièrement intéressant à étudier. La deuxième raison, alors je suis d'origine à moitié bulgare, mon père est bulgare, donc j'avais, pour tout un tas de raisons, eu la possibilité de voyager en Bulgarie, y compris pendant la période communiste. Donc moi, j'étais enfant, puis adolescente à l'époque, pour aller voir visiter mes grands-parents. Donc c'était une société, donc la société bulgare, que je connaissais un petit peu de l'intérieur. Et c'est aussi l'une des raisons, bien sûr, pour lesquelles 1989 a été pour moi un réel tournant. Mais pourquoi la Tchécoslovaquie et pas la Bulgarie ? Parce que justement, je voulais essayer de me détacher, hein, de cet affect familial et de cette prégnance aussi familiale qui peut être très forte dans les familles bulgares, et découvrir, hein, une autre société, donc une société centre-européenne et non pas est-européenne, hein, puisque la Bulgarie est vraiment une société assez différente de la société tchèque. Et alors, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était le contraste entre l'idéal, hein, de retour du citoyen au cœur de la cité que portait la révolution de velours, justement, en 1989, encore en 1990 à travers le forum civique, et puis la rapidité finalement avec laquelle ce discours s'est refermé en quelque sorte, et la rapidité avec laquelle on est passé à ce que Guillermé avait pu appeler dans les années 90 des démocraties désenchantées. Hein. Et c'est ce contraste entre cette première période fondatrice centrée sur l'idée de réappropriation citoyenne de la chose publique vers une professionnalisation, une respécialisation du politique extrêmement rapide. C'est ça qui m'avait frappé à l'époque.
les anciens dissidents, avec bien évidemment Václav Havel en sa qualité de président, ont joué un grand rôle au début dans ce processus de transformation, dans ce passage à la démocratie. Quelle était alors leur vision de la politique? Puisque assez rapidement, le forum civique, qui, comme vous l'avez dit, souhaitait en quelque sorte promouvoir la participation citoyenne dans les affaires publiques, a laissé la place à des partis politiques de forme plus classique. Est-ce que, selon vous, il s'agit là d'un échec de ces dissidents dans leur entreprise politique, ou plutôt d'une évolution qui était inévitable?
J'ai fait un article que j'ai titré justement l'échec de la démocratie participative en pays tchèque. Effectivement, je pense qu'il y a une dimension d'échec. C'est-à-dire que, même si ça peut paraître un petit peu dur vis-à-vis des anciens dissidents, ce à quoi je suis parvenue, c'est finalement à considérer que l'équipe qui était autour de Havel a souhaité mettre en avant et permettre l'inventivité démocratique. On peut mettre ça à leur actif. Le problème, c'est que je pense vraiment qu'ils avaient une vision beaucoup trop abstraite du citoyen et de sa mobilisation. Or, la sociologie des mobilisations nous montre bien que pour maintenir une innovation politique sur la durée, il faut un investissement fort, et un investissement fort des leaders. Les leaders ne sont pas uniquement ceux qui dirigent, ce sont aussi ceux qui incarnent et qui permettent en quelque sorte aux simples militants, si j'ose dire, même si on n'utilisait pas ce vocabulaire-là à l'époque, de se sentir bien représentés, de se sentir surtout reconnus par les leaders. Et j'ai pu écrire aussi un article sur le retrait des leaders du Forum civique, sur le fait qu'ils ont, que ce soit Havel lui-même, bien entendu, puisqu'il est parti à la présidence, il y a eu plutôt un phénomène de retrait, alors justifié en termes de, il ne faut pas remettre une hiérarchie au sein du Forum civique, chaque Forum civique local doit s'auto-gérer, etc., mais qui en réalité a pu être ressenti comme un abandon par les forums civiques locaux et par tous ceux qui, sur la base du volontariat, il faut le rappeler, essayaient de s'activer pour faire exister ce forum civique au niveau local, qui était très présent, y compris les petites villes de pays tchèques. Donc, il y a une dimension d'échec, indéniablement, c'est-à-dire de quelque chose qui, effectivement, a pu bourgeonner à un moment donné, mais qui n'a pas été suivi jusqu'au bout pour tout un tas de raisons. Et la façon dont certains anciens dissidents, en tout cas, voyaient leur investissement dans un mouvement politique a pu jouer un rôle important.
C'est donc la raison pour laquelle, dans vos travaux, vous évoquez une transition de pouvoir entre les amateurs de la politique et des professionnels qui étaient incarnés donc en premier lieu par Václav Klaus.
Oui et non. J'utilise ces termes entre guillemets. Ce dont il faut bien se rappeler, c'est qu'à l'époque, être un amateur en politique était positif. En tout cas, en 1989-1990, seuls les amateurs politiques pouvaient se targuer d'une quelconque autorité, d'une quelconque légitimité dans la situation dans laquelle était la Tchécoslovaquie à l'époque, avec une défiance historique vis-à-vis des anciens détenants habituels du pouvoir politique, donc incarné par le Parti communiste tchécoslovaque. Et donc le passage entre cette période 89-90 où finalement il fallait apparaître comme amateur, ne surtout pas porter des cravates, ne surtout pas porter des costumes cravates gris comme les anciens de la nomenclatura, ne surtout pas apparaître comme des apparatchiks. Le passage de cette période-là à une période très rapidement après, finalement, où de nouvelles personnalités pu émerger et se revendiquer d'un certain professionnalisme en politique, pour moi, c'est vraiment le signe d'un changement d'époque, mais en l'espace de 2 années. Et c'est aussi un mystère, c'est-à-dire comment les dirigeants et les militants de l'ODS ont-ils pu se revendiquer d'un quelconque professionnalisme dans ce contexte dans lequel, je le rappelle, aucun d'entre eux n'était censé être des anciens professionnels du politique, bien entendu. Sinon, ils n'auraient pas été élus, ils n'auraient pas pu avoir la légitimité qu'ils ont acquise à ce moment-là. Une des façons qu'ils ont eu de s'y prendre, c'est d'insister sur leur professionnalisme en tant qu'économiste ou ingénieur. Parce que ce que j'ai pu montrer, c'est que derrière l'image donc importante, bien entendu, de Václav Klaus, vous avez le glissement du verre « il nous faut des économistes pour réussir la transition politique et économique dans cette période ». Donc c'est cette légitimation par l'économie qui a énormément joué chez Václav Klaus, comme ça a pu jouer chez Balcerowicz en Pologne. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à la République tchécoslovaque. Donc c'est bien une reprofessionnalisation, mais par l'économie en quelque sorte.
Ne serait-ce que vu de l'étranger, la transformation en Tchécoslovaquie dans les années 1990 a été perçue comme une réussite. Avec le recul, un peu plus de 30 ans plus tard, est-ce qu'on peut encore faire la même analyse?
D'un point de vue économique et social, si vous faites une comparaison avec l'ensemble des pays de la zone, la République tchèque, j'allais dire, s'en sort plutôt bien encore aujourd'hui. Et en particulier, moi, j'insisterai pas tant sur les indicateurs habituels PIB, mais bon, voilà, un taux de chômage encore très bas, c'est pas la seule, loin de là, bien entendu, mais surtout, les inégalités sociales ne sont pas du tout aussi fortes que dans les autres pays de la zone, en particulier la Pologne et la Roumanie, notamment la Pologne, qui est l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe. D'un point de vue plus politique, l'un des grands problèmes de la zone, c'est effectivement de lier les années 90 à ce qu'on appelle maintenant un peu rapidement donc la corruption du système, c'est-à-dire une collusion forte à un moment donné avec un trop faible cadrage juridique entre les élites politiques et les élites émergentes économiques à l'époque, autour des privatisations. Et ce n'est pas du tout un hasard si l'ensemble des pays de la zone sont marqués régulièrement par des grandes mobilisations, des grandes manifestations, dont la corruption et le mot d'ordre. De mon point de vue, le tort des responsables politiques du début des années 90, et là pour le coup, c'est commun à Klaus comme à Havel, ça a été de séparer le politique de l'économique, d'oublier en quelque sorte la dimension sociale de la transformation globale qui était à l'œuvre dans ces pays-là, une transformation extraordinaire, historique. C'était évidemment un discours explicite de la part de Václav Klaus, qui disait bien qu'il fallait d'abord s'occuper de la transition économique et laisser de côté finalement toutes les questions institutionnelles ou politiques, et que finalement les choses se feraient d'elles-mêmes par la suite. Mais c'est aussi un aspect qu'on peut trouver chez Havel ou au sein du Forum civique, avec aucune prise en charge finalement des questions économiques et sociales dans le discours politique du Forum civique. Or, la démocratie, avec son idéal de gouvernement du peuple, d'égale dignité entre les citoyens, génère des attentes en termes d'incarnation collective, en termes de bien-être social. Et c'était aussi le cas dans les pays d'Europe centrale et orientale au début des années 90. Cette non prise en charge finalement du lien entre l'économique et le politique, à mon avis, c'est un tort que les démocraties centrales européennes payent aujourd'hui.
Magdalena Adjiski, un des thèmes qui vous intéresse aujourd'hui dans votre travail est le clivage Est-Ouest qui existe au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Alors quand on parle d'Est, on pense d'abord aux pays d'Europe centrale, aux pays du groupe de Visegrad. Où situeriez-vous la République tchèque qui certes est proche de ses pays partenaires au sein du groupe de Visegrad, mais qui en même temps est dans une situation quand même différente, à savoir que l'état de droit est quand même moins menacé, et peut-être même la démocratie qu'en Pologne et la Hongrie. Est-ce que la République tchèque est selon vous partagée entre l'Ouest et ces deux pays, entre Varsovie et Budapest?
La République tchèque, clairement, peut jouer un rôle de pont. C'est vraiment un rôle important qu'elle peut jouer aujourd'hui au sein de l'Union européenne, entre certains groupes politiques, sociaux, nationaux en Pologne ou en Hongrie, et les élites ou une partie de la population ouest-européenne ou des anciens États membres de l'Union européenne. Je ne pense pas qu'il existe un clivage est-ouest. Je pense que certains groupes politiques et sociaux ont intérêt à mettre en avant davantage les différences entre nous que les similitudes et les convergences. Et effectivement, des différences existent, bien entendu, nous n'avons pas la même histoire. D'ailleurs, les pays d'Europe centrale orientale, entre eux, ont énormément de différences et n'ont pas la même histoire, et n'ont pas nécessairement la même vision de la nation, par exemple, n'ont pas du tout la même façon de vivre la religion, d'accord? Mais ces différences peuvent être évidemment dépassées. La question aujourd'hui, c'est quels sont les acteurs qui peuvent légitimement porter un discours et des actions de compréhension mutuelle. La compréhension au sein de l'Union européenne ne signifie pas la similitude. Nous ne sommes pas obligés d'être tous pareils pour bien nous entendre et produire des politiques d'intégration communautaire. L'une des grandes différences de la République tchèque actuellement par rapport à la Hongrie et la Pologne, c'est que justement 1989 reste globalement une référence positive en République tchèque, alors que en Hongrie comme en Pologne, vous avez tout un mouvement très fort, d'inventaire critique très radical en Pologne contre 1989, contre ce qui s'est passé à l'époque, contre donc la négociation entre les anciens communistes, enfin entre les communistes pardon et les dissidents telle qu'elle a eu lieu pendant la table ronde polonaise. Et cette remise en cause radicale tend à, quelque part, déconstruire le mythe fondateur, mais au sens positif, qu'a pu être 1989 dans le cas polonais comme ailleurs, et le mythe fondateur qui est toujours, me semble-t-il, 1989 en République tchèque aujourd'hui. Du fait de la participation très forte de la population aux événements de 1989, me semble-t-il, 1989 reste une référence commune à un grand nombre de personnes, quelles que soient leurs opinions politiques aujourd'hui. Ça peut rassembler des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques. Et ça, c'est le type, évidemment, de mythe fondateur qui sont extrêmement utiles pour construire une démocratie forte.
Magdalena Adjiski, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.